Allô, bonjour Monsieur Mermet. Bernard de Gournay, voilà, je suis en train d'écouter votre émission actuellement et de vos deux intervenants sur la question de la sécurité sociale. J'espère que vous enregistrez ces émissions de manière à les faire écouter à Monsieur Doust Blazy, parce que c'est la voix de la raison. Alors si lui n'y arrive pas, eh ben à ce moment-là on dit Oust, hein. Encore une autre fois, merci encore pour tout et à bientôt, au revoir.
Ton émission était très intéressante et tes invités aussi ont développé des idées, des informations très très intéressantes. Je crois qu'il n'y a que toi qui a employé le terme assurance maladie, tu t'es repris. C'est sécurité sociale qu'il faut employer, parce que le terme assurance maladie c'est un terme libéral et sécurité sociale c'est vraiment autre chose. Voilà.
Cette émission du 21 avril a été un pur bonheur parce que on a entendu des gens intelligents, parce que on a une autre vue des soucis actuels, et puis la chose la plus magnifique c'est ce glissement de vocabulaire qui a été identique pour l'école qu'on a appelée libre alors qu'elle était une école privée. Ça a été vraiment un événement, et pour les charges qui n'en sont pas, on les a longtemps appelées salaire différé, mais c'est tout simple et c'est génial et c'est lumineux, et merci encore pour tout. Au revoir.
Bonjour, c'est Sylvie à Paris. Moi je voudrais savoir pourquoi on parle jamais du prix des médicaments qui engraissent les laboratoires pharmaceutiques et des profits de ces laboratoires pharmaceutiques. Pourquoi ne sont-ils pas associés d'une façon ou d'une autre aux économies qu'on pourrait faire et qu'on nous demande de faire continuellement?
Eh bien justement, c'est le sujet d'aujourd'hui. L'horreur pharmaceutique par rapport évidemment à ce qui nous préoccupe, qui nous a préoccupé hier et qui va nous occuper aujourd'hui et puis qui va nous occuper tous dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire la réforme de l'assurance maladie. On retrouve nos deux invités, Philippe Pignard et Martine Bullard, et je suis désolé mais les messages qu'on a passés qui sont élogieux, ben on n'avait que ça aujourd'hui. Donc voilà, ils ont bien fait leur boulot, ils ont été interrogés par Guy Vanctil et ce sera encore le cas aujourd'hui. On a longuement hier expliqué comment fonctionnait l'assurance maladie, l'histoire de la sécurité sociale. Cet auditeur a bien raison de faire observer ce glissement sémantique, et c'est vrai que tout ça est entouré de beaucoup de ces euphémisations, de ces glissements et autres entourloupes langagières. Donc aujourd'hui la sécu, comment sauver la sécu, mais à travers la question des médicaments, c'est-à-dire de l'industrie pharmaceutique qui pèse sur notre sécurité sociale. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, dont des nouvelles extrêmement précieuses sur ce qui intéressait hier, ce qui inquiétait cet auditeur de la Guadeloupe, qui avait vu autour du soleil une sorte d'arc-en-ciel, ce qui l'intriguait beaucoup.
En réponse à la question du camarade auditeur sur l'arc-en-ciel autour du soleil, je signale qu'une croyance populaire au Tibet et dans d'autres pays dit qu'un tel phénomène montre qu'un événement particulier se passe sur Terre en rapport avec un esprit ayant atteint l'éveil, un genre de Bouddha incarné. Il semble donc que ce soit un présage favorable et non pas un lien avec l'effet de serre. Le ciel s'occupe de la terre. C'est vrai, puisque j'y crois. À bientôt.
Bonjour Daniel. J'appelle parce que je voulais parler du prix du médicament en France. Et il faut savoir que quand un laboratoire fait une demande d'autorisation de mise sur le marché, un laboratoire pharmaceutique, eh bien c'est le ministère de la Santé qui va délivrer un prix en même temps et qui va assurer des bénéfices colossaux à cette industrie pharmaceutique. Donc c'est quand même assez surprenant que d'un côté, on dise que la santé coûte cher et puis de l'autre, et on laisse ces braves entreprises pharmaceutiques qui sont les négriers modernes s'enrichir sur notre dos et notre santé. Voilà. Et puis, bah, forcément, quand il y a des médicaments qui sont déremboursés, on vient pleurer parce qu'on va plus avoir de bénéfices. Et puis, l'arrivée des génériques, bah, ça les arrange pas forcément. Voilà, bah, c'est triste, hein, mais la médecine à deux vitesses, elle est déjà en place.
Ce message fait suite à l'émission du 21 avril 2004. Voilà. J'ai du mal à comprendre la politique économique de notre gouvernement, mais sans doute qu'un expert pourrait m'aider. Notre cher président de la République nous dit que la croissance, donc l'augmentation annuelle du PIB, est la clé de voûte de notre système. En partant de cet axiome, contestable s'il en est, mais hors de notre propos immédiat, il en déduit que la baisse de l'impôt sur le revenu encouragera la consommation des ménages et donc augmentera la croissance. Ce point de vue est aussi discutable, sachant que l'impôt sur le revenu est loin de concerner nos presque 60 millions de concitoyens. Mais prenons-le tout de même comme référence. Par conséquent, l'augmentation de la consommation des ménages devient la voie prioritaire qu'il faut suivre pour assurer l'avenir du pays. Soit. Or, dans les jours qui viennent, nos ministres vont s'atteler à la réforme de la sécurité sociale, acquis hautement symbolique, avec les congés payés, qui seront peut-être les prochains sur la liste, pourquoi pas. Mais à chaque jour suffit sa peine. Parmi les grands axes de cette réforme, on trouve donc l'augmentation des cotisations, des forfaits hospitaliers et le déremboursement d'un grand nombre de médicaments. Ce qui m'est incompréhensible, c'est que ces mesures auront des conséquences sur la croissance diamétralement opposées à celles prônées par notre président. En effet, imaginons une famille de 4 personnes ayant 3000 euros de revenus mensuels. Si actuellement elle dépense en moyenne 150 euros de frais de santé par mois et qu'on lui en rembourse 100, elle pourra utiliser à nouveau ces 100 euros pour acheter des biens de consommation. Soit dit en passant, la TVA appliquée sur ces 100 euros une première fois pour les dépenses de santé l'est une seconde fois pour les achats communs. Elle rentre donc doublement dans les caisses de l'État et participe grandement à l'accroissement du PIB. Demain, si la prise en charge par la Sécu ne s'élève plus qu'à 50 voire 30 euros, c'est autant d'argent qu'il sera plus injecté à nouveau dans l'économie, générant de facto une perte à la fois en TVA et en consommation. Car il faut être conscient que les humains, dans leur grande majorité, placent leur santé au premier plan. Une réforme de ce type entraînerait donc une chute de la croissance, ce qui est en totale contradiction avec le discours présidentiel. Mon raisonnement est sans doute simpliste, puisque je fais partie de la France d'en bas. Et peut-être n'intègre-t-il pas un ou plusieurs éléments majeurs qui rendraient pertinent ces actions politiques et économiques. Alors, si quelqu'un a des réponses, je suis preneur. Peut-être que Bernard Maris pourrait venir nous éclairer dans une émission spéciale économie. Il est paraît-il plus disponible que Keynes.
Oui, bonjour, c'est à propos de DFGDF. Qu'est-ce qu'ils attendent pour couper le jus à toutes ces grosses boîtes, aux locaux du MEDEF, aux chambres de commerce et d'industrie, enfin là où logent tous ces gens qui veulent faire de la France un pays ultra-libéral à l'image de la Grande-Bretagne.
Chers auditeurs, nous vous rappelons comment préparer votre cure de vin de frileuse. Premièrement, achetez chez votre pharmacien un flacon de vin de frileuse à base d'Uvaria de Madagascar. Deuxièmement, versez cet extrait dans un litre de bon vin de chez nous. Troisièmement, dégustez votre vin de frileuse deux fois par jour avant les repas. Quatrièmement, faites une cure de 21 jours. Dès le cinquième jour, vous vous sentirez transformé. La santé déjà vient vers vous. La cure se fait aussi avec des cachets de frileuse, sous forme liquide ou en cachet. Toujours la santé vient vers vous.
Un bon petit coup de vin de frileuse. Salut, c'est Daniel Mermel. Ah bah si j'y suis, avec Guy Ventil et Philippe Pignard et Martine Bullard, l'horreur pharmaceutique.
Flight number 2, arriving from New York.
Nous transportons le micro sur le quai d'embarquement d'un grand paquebot au moment du départ.
C'est la première fois que nous nous quittons, mon chéri.
Je serai si vite revenu. Dans 20 jours, je serai là.
Je suis inquiète. Ton foie n'allait pas très bien ces temps-ci. Et puis on mange trop sur ces bateaux.
Tant mieux. Je ne me sens pas l'envie de me priver.
Oh, Georges, sois prudent. Tu n'as pas le droit d'être malade.
Mais j'espère bien que tu ne vas pas t'en faire pour moi. D'abord, j'ai tout prévu et je suis paré. J'ai dans ma valise des petites pilules Carter pour le foie.
Très juste. Si vous ne vous sentez pas bien, essayez les pilules Carter pour le foie. Exclusivement végétales et douces. Elles vous garantissent l'afflux du plus vital des sucs digestifs, la bile. Quand ce suc vital coule à raison d'un litre par jour, il nous permet de digérer nos aliments, arrête leur fermentation qui empoisonnait tout notre organisme et ramène la régularité. Pour tout le monde, la vie devient rose. Exigez bien les petites pilules Carter pour le foie.
Oui, 74.
Avaler la pilule. Avaler la pilule, c'est pas d'hier qu'on essaye de nous faire avaler la pilule. Et pour ce qui est de gober les pilules, eh bien, nous sommes champions du monde, on le sait, on se le dit, on le répète et on n'est pas plus fiers pour ça. C'est peut-être d'ailleurs que s'appuie une certaine culpabilité vis-à-vis de ce fameux trou de la sécu que nous creusons chaque instant un peu plus, chaque seconde, ce trou s'agrandit. Quand je dis que c'est nous qui le creusons, qui c'est ce nous ? Est-ce que c'est nous autres, les consommateurs, les patients, ou bien est-ce qu'il y a d'autres causes à cela ? Eh bien, oui. Oui, il y a d'autres causes, il y a d'autres responsabilités dans ce déficit de la sécurité sociale. C'est ce qu'affirment un certain nombre d'observateurs et de participants, et notamment nos invités Martine Bullard, journaliste au Monde Diplomatique, et Philippe Pignard, spécialiste des questions de l'industrie pharmaceutique. Il est l'auteur notamment d'un livre intitulé « Le grand secret de l'industrie pharmaceutique à la découverte », et puis un livre plus récent, « Comment sauver vraiment la sécu », mais toujours à travers cet angle de la tyrannie des labos sur la santé publique. Alors aujourd'hui, eh bien, on va les retrouver tous les deux. Là, aujourd'hui, j'allais dire travailler, parce que c'est quand même un petit peu ça. Oui. Aujourd'hui, on étudie. Hein. C'est un exposé. Voilà, c'est un exposé qui est fait par ces deux spécialistes. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un sujet capital, c'est un sujet éminent. Non seulement parce que ça concerne notre santé, mais aussi ça concerne, eh bien, des idées, des choix. Politique, on y peut quelque chose. On peut quelque chose sur ce qui est présenté comme naturel, comme inévitable, c'est-à-dire le creusement de ce trou. Ce qu'on disait hier, c'est que c'était plutôt d'ailleurs Martine Bullard qui nous rappelait un certain nombre de chiffres, c'est que effectivement, s'il y a un déficit de 10 milliards d'euros qui est brandi comme une catastrophe, il faut rappeler que cela s'inscrit dans les 300 milliards de déficit du budget. Donc c'est 10 milliards sur 300 milliards de déficit, et que le budget de la santé représente 130 milliards d'euros. Les causes qu'elle a évoquées, qui ont été évoquées hier, elles sont conjoncturelles. On a rappelé hier que le chômage, par exemple, accroît le déficit de l'assurance maladie, qu'on a calculé que 100 000 chômeurs de plus, c'était 1 milliard d'euros de déficit en plus. Alors voilà, on en est presque à 200 000 chômeurs de plus en un an, d'où accroissement de ce déficit. Et si vous rapportez ça au nombre de chômeurs, vous avez une explication. Et puis, des causes structurelles qui sont l'augmentation des dépenses de santé, l'allongement de la durée de vie, etc. Et si bien que nos invités disaient hier, s'accordaient pour dire, eh bien, après tout, ce déficit doit être une bonne nouvelle, parce que nous consommons plus, qui va se plaindre, ce que disait cet auditeur avec pas mal d'esprit, c'est que finalement, ben voilà, un domaine où nous consommons, les ménages consomment dans ce domaine. Pourquoi est-ce que c'est une telle panique? Alors, bon. Les raisons, bien sûr, ne sont pas seulement du côté de la responsabilité, n'est pas seulement celle du consommateur. Il y en a d'autres, et c'est sur ces autres responsabilités que nous allons nous étendre aujourd'hui avec les lumières de nos deux invités. C'est jusqu'à 18h, c'est là-bas si j'y suis, et c'est sur France Inter.
Voici les piqûres, cache, voici les cachets, tempe, la température,
prenez vos bibis, prenez vos billets,
pique,
voici les piqûres,
cache,
voici les cachets,
tempe,
la température, prenez vos bibis, prenez vos billets,
la pénicilline,
la téramycine,
l'oréomycine,
et le colargol,
la tifoumycine,
la supoquinine,
et le boulganine,
et le goménol,
la pénicilline,
la téramycine,
l'oréomycine,
et le colargol,
la tifoumycine,
la supoquinine,
et le boulganine,
et le goménol,
désinfectons nos existences, plus grippes.
asiatique nu de rhume anglais. C'est le virus qui vient de France, qui seul nous donnera l'amour et la paix. Désinfectons,
désinfectons,
désinfectons, qu'un air plus pur abreuve nos poumons.
Lorsqu'on parle de la réforme à venir de l'assurance maladie, on parle de mise en cause de l'égalité qui est aujourd'hui comprise comme telle. Je crois qu'au contraire, la réforme va lutter contre les dernières inégalités qui restent, les inégalités socio-économiques, les inégalités géographiques, et que cela, je crois, est extrêmement important.
Ministre surpris en pleine pédagogie, j'ai pas dit démagogie, mais cette pédagogie suffira-t-elle à nous faire avaler la pilule, la réforme de l'assurance maladie qui se profile, serait-elle apte à réduire les inégalités? C'est pas du tout les analyses que font nos invités. Je rappelle ce qui les a mis un peu en pétard chacun l'un et l'autre hier, c'est la déclaration faite par monsieur Philippe Douste-Blazy, nouveau ministre de la Santé, dans une déclaration du 19 avril, qui dit « Chaque Français doit prendre conscience du désastre. Le déficit de l'assurance maladie va atteindre cette année plus de 12 milliards d'euros. Ce qui revient à dire que cela représente plus de 400 euros par foyer et par an. Voilà, chaque mois gagné nous permettrait de gagner 1 milliard d'euros. Donc il y a urgence. C'est de notre faute, quoi. En gros, enfin, c'est pas dit directement, mais c'est ce qu'on comprend, qui est en filigrane dans ce qui est dit, et ça représente plus de 400 euros par foyer et par an, donc ça va coûter. Enfin, tout ça est bien flou, et tout là, enfin bien précis aussi en même temps, on voit que la cible, eh bien, c'est le consommateur. Pas tellement, nous disent nos invités qui ont répondu aux questions de Guy Vanctil, notamment Philippe Pignard, plus précisément c'est lui aujourd'hui qui va être sur la sellette. Il est, je le rappelle, expert de l'industrie pharmaceutique, il a travaillé à l'intérieur, il a été un collabo des labos, si on peut dire, pendant de longues années, c'est un repenti, si on peut dire, et il a une vision extrêmement intéressante, croyons-nous, sur ces questions.
Ce que vous dites, c'est que c'est le trou de la sécu et nos problèmes financiers, c'est pas nécessairement dans les individus, les pauvres consommateurs de soins médicaux qu'il faut aller les trouver, c'est pas nous les coupables, nécessairement, j'entends bien, mais c'est qu'il y a aussi peut-être d'autres sources, d'autres objectifs et d'autres enjeux.
Je pense que le problème, il n'est pas du côté des consommateurs de soins, je pense que le problème, il est du côté du fournisseur de soins. C'est là qu'il y a un problème de contrôle. Or, on noie le poisson en expliquant qu'il faut mieux contrôler les consommateurs de soins. Je crois que c'est pas les consommateurs de soins qu'il faut mieux contrôler. Je crois que c'est les fournisseurs de soins. Et l'exemple de l'industrie pharmaceutique me semble intéressant. L'année dernière, j'avais déjà été frappé par le coût des nouveaux médicaments qui étaient mis sur le marché. Entre autres, un médicament contre la sclérose en plaques qui a été mis sur le marché par Aventis. Et j'avais été surpris parce que ce médicament a un dossier clinique inexistant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune étude significative qui montre une quelconque efficacité de ce médicament. Et ils ont obtenu un prix de 1000 euros la boîte pour un mois de consommation. Donc ça, j'avais été déjà très surpris.
Presque le SMIC.
Exactement.
Un mois de SMIC.
Tu te dis, c'est quand même très surprenant. Là, on a déjà une gigantesque augmentation. Mais les nouvelles qui viennent des États-Unis montrent que ça va... On pouvait parler d'augmentation de prix qui était 35 ou 100 fois plus cher. On est encore en train de remultiplier ces chiffres déjà énormes par 35 ou 100. Parce que il y a quand même deux éléments qui sont survenus ces trois dernières semaines aux États-Unis qui doivent quand même attirer notre attention. C'est le fait qu'un nouveau médicament contre le cancer a été mis sur le marché. Qui est un médicament qui a une certaine efficacité, mais qui n'est pas une percée thérapeutique absolument géniale. En gros, dans les études qui ont été faites, et c'est des études qui ont été faites par le labo, donc faudrait regarder d'un peu plus près, il allonge en moyenne la durée de vie des patients de 5 mois. C'est pas rien, 5 mois, mais enfin, c'est pas la révolution thérapeutique que tout le monde attend dans le cancer. C'est pas encore là qu'on l'a. Or, ce médicament est commercialisé au prix de 40 000 dollars par an, c'est-à-dire 3 000 euros par mois. Donc là, on passe vraiment encore à une nouvelle échelle. Et un autre élément aussi qui montre ça, c'est que les laboratoires Abbott, qui ont mis au point un médicament contre le sida, viennent de décider, il y a quelques jours, de multiplier le prix public de ce médicament par 5. Donc d'un seul coup comme ça, sur le marché américain, où les laboratoires fixent librement leur prix, son prix est quintuplé. Donc ça, il faut bien être conscient que c'est ce type de situation-là, avec ces deux exemples-là, mais si ces exemples se généralisent, aucun système d'assurance maladie ne pourra supporter ce type de coût. C'est-à-dire que ça, c'est l'explosion garantie de tous les systèmes d'assurance maladie. Ça veut dire que les hôpitaux ne pourront pas acheter ces médicaments-là. Ce déjà se plaignent aussi les médecins et les professeurs qui ont signé cette pétition. C'est-à-dire que les hôpitaux ne pourront pas acheter ces médicaments-là. Ça veut dire que là, on entre vraiment dans une médecine où un certain nombre de médicaments vont être tellement hors de prix que tous les systèmes d'assurance maladie vont exploser. Et je crois que c'est un des objectifs, c'est-à-dire que un des objectifs des grosses compagnies pharmaceutiques américaines, c'est de faire exploser nos systèmes de santé. De manière à ce qu'il n'y ait plus ce contrôle des prix qu'on a en Europe, qu'on a au Canada. Pour eux, c'est absolument insupportable. Donc ils se battent par tous les moyens pour que le gouvernement américain obtienne la suppression du contrôle des prix. Et on risque d'y aller petit à petit, puisque de plus en plus, on s'aperçoit qu'on introduit des mesures, et ça, Mattei avait fait beaucoup dans ce sens-là, pour aller vers ce qui s'appelle un contrôle a posteriori des prix. C'est déjà le cas à l'hôpital. Ils ont introduit dans la dernière discussion un contrôle a posteriori des prix. Et Mattei s'était engagé là-dessus aussi pour tous les médicaments nouveaux innovants. Et qui va décider ce que sont les médicaments innovants, hein? Eh bien, le contrôle des prix serait a posteriori. C'est-à-dire qu'on interviendrait sur le prix si le laboratoire exagère. Mais donc, quand on voit comment les choses se passent, l'opacité du système, le peu de transparence, les négociations permanentes, secrètes, qui ont lieu entre le gouvernement et les laboratoires pharmaceutiques, on peut être très inquiet. Si on passe à un contrôle des prix a posteriori, là, le système va exploser parce que le système, actuellement, les médicaments représentent 21%, ce qui est beaucoup trop, à mon avis. Si on fonctionnait de manière plus rationnelle, ça devrait être autour de 10%.
Des dépenses,
c'est ça. Mais si on a ces nouveaux prix qui arrivent, on ne sera pas à 21%, on sera à 30, 35, peut-être 40% de nos dépenses. C'est-à-dire que tout cet argent dont on a besoin aujourd'hui pour les hôpitaux, il va passer dans les poches de l'industrie pharmaceutique.
Bon anniversaire.
20 ans déjà. Tu te souviens de notre premier rendez-vous? Bien.
Et là, je me suis réveillé. Le cauchemar.
Vous pensez être en bonne santé, pourtant un excès de cholestérol dans votre sang peut provoquer un accident cardiovasculaire. Faites doser votre cholestérol et demandez conseil à votre médecin.
Bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous.
Pour plus d'informations, 0800 10 741 741.
Philippe Pignat, pour un néophyte, comment ça se décide? Comment ça s'invente? Comment ça se crée? Quelles sont les priorités pour faire d'un médicament? Parce qu'on parle de l'industrie pharmaceutique. Au XXe siècle, c'était quand même ceux qui ont rendu ce siècle possible, ceux qui ont permis de soigner. Et puis maintenant, j'ai l'impression qu'on parle de l'industrie pharmaceutique comme on parlait à l'époque du complexe militaro-industriel, c'est-à-dire une entité...
C'est une bonne comparaison. C'est une bonne comparaison dans le rôle qu'il joue, effectivement.
Une octave toute puissante et qui fait pression pour modifier nos modes de vie.
Déjà, quand on dit que l'industrie pharmaceutique est à l'origine de toutes les grandes découvertes, ça mériterait d'être regardé dans le détail. C'est-à-dire que si vous prenez toutes les grandes inventions qui caractérisent entre autres ce qu'on appelle la révolution thérapeutique d'après la guerre avec les antibiotiques, etc., on se rend compte que l'industrie pharmaceutique, la plupart du temps, a été contre. Et qu'il a fallu un effort considérable des gouvernements pour les obliger à adopter et à travailler. Je prendrai deux exemples, les antibiotiques et la pénicilline. Les laboratoires, quand les deux équipes anglaises sont arrivées aux États-Unis à la fin de la guerre pour essayer de trouver des modes de fabrication de ces antibiotiques, l'industrie pharmaceutique ne voulait pas entendre parler des antibiotiques. C'était une équipe universitaire qui avait mis au point cette affaire-là en Angleterre et qui arrive aux États-Unis. Il a fallu que le gouvernement américain crée une agence spéciale et il a fallu que l'invention des modes de fermentation, puisqu'à l'époque on inventait les antibiotiques de manière très difficile, eh bien, c'est le gouvernement américain qui a financé l'ensemble et c'est le gouvernement américain qui a quasiment obligé les laboratoires pharmaceutiques américains réticents à se détourner des anciennes sulfamides que les laboratoires pharmaceutiques voulaient perfectionner pour se tourner vers les antibiotiques. Et si on prend aussi tout ce qui s'est passé avec le sida récemment, qui est aussi un exemple intéressant, je trouve, on se rend compte que aux États-Unis, si vous prenez les chiffres, la recherche publique dépense à peu près 25 milliards de dollars par an en recherche publique et l'industrie pharmaceutique dépense 30 milliards. Mais sur les 30 milliards que l'industrie pharmaceutique dépense, les experts estiment qu'il y en a à peu près que la moitié qui consiste à vraiment faire de la recherche. Il y en a la moitié qui en fait sur des opérations de marketing déguisées sous le nom de recherche. On pourrait y revenir. Donc en fait,
c'est-à-dire que la com prévaut sur la recherche.
C'est-à-dire que vous avez un certain type d'études quand vous lancez un médicament, il y a un certain type d'études qui coûtent très cher. C'est celles qui coûtent les plus chères techniquement. On les appelle des études de phase 4, qui sont des études qui rentrent dans les frais de recherche, mais qui sont en fait des frais de marketing. C'est-à-dire c'est des études qui sont destinées à habituer les médecins à prescrire ce médicament. Donc c'est c'est pas des études qui ont pour objectif de mieux connaître la molécule ou de mieux connaître ses indications ou de mieux connaître les patients qui devraient la prendre. Donc, on considère qu'en fait, la recherche, si vous voulez, pour reprendre ces chiffres, la recherche publique américaine dépense 25 milliards, la recherche américaine dépenserait purement en recherche d'invention à peu près 15 milliards. Donc, si on prend l'exemple de l'invention de toutes les molécules sur le sida, la recherche publique a eu un rôle absolument essentiel aux États-Unis. Et même fait exceptionnel, ce qui coûte le plus cher dans la recherche d'un médicament, c'est les études cliniques. C'est-à-dire quand on teste le nouveau médicament sur des cohortes de patients.
Pour voir comment ça marche, quels effets ça fait.
L'essentiel des études était payé par le public. Il y avait même une agence qui a été créée aux États-Unis spécialement pour financer ces études. Si bien qu'on estime aujourd'hui, si vous voulez, les derniers chiffres sont parus récemment, on estime que, en fait, les laboratoires pharmaceutiques ont dépensé en moyenne pour inventer un médicament contre le sida, ont dépensé 200 millions de dollars. C'est-à-dire chaque nouveau médicament a coûté 200 millions de dollars, ce qui veut dire qu'au prix où ils les vendent, ils récupèrent leur mise en un an de vente. Avec un an de vente, ils récupèrent, puisqu'ils font à peu près 57% de bénéfices.
57% de bénéfices.
Oui, sur ces molécules brevetées qui sont vendues très chères, comme les antiprotéases par exemple. Et on estime aujourd'hui qu'en un an de vente, ils récupèrent l'investissement de 200 millions qu'ils ont fait pour inventer un médicament contre le sida. Donc après, il leur reste 14 ans à commercialiser la molécule qui est brevetée. Donc vous voyez qu'ils ont largement le temps de gagner beaucoup d'argent avec ce type de médicament.
Une crise d'asthme, à quel âge?
C'est bien là-bas si j'y suis, hein, vous dit comment gagner beaucoup d'argent quand même. On vous donne des pistes, amis spéculateurs, actionnaires, etc. C'est pas mal de nous écouter, on perd pas son temps. On comprend, en écoutant Philippe Pignard en tout cas, que puisqu'il s'agit, on est bien d'accord, qu'on est en train de parler de l'assurance maladie et du poids que l'industrie pharmaceutique exerce sur ce domaine, il y a une tension, disons, entre des forces pas nécessairement toujours compatibles et qui sont celles de soigner, cette nécessité de soigner, et l'autre impératif qui est le profit. Et puis il y a aussi une autre tension, mais qui ressemble à la précédente, qui est la tension entre la recherche, et qui est évidemment un domaine capital dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, et puis le financier, le financement, et là aussi la recherche du profit et du seul profit. Quel contrôle peut s'exercer? Philippe Pignard.
Comment ça fonctionne un laboratoire pharmaceutique, dans le sens de comment on va choisir les domaines de recherche, comment on va choisir de développer ce médicament?
Oui, si vous voulez, c'est d'abord parce un laboratoire pharmaceutique, il est dans un certain nombre de domaines thérapeutiques dans lesquels il a formé des équipes de chercheurs. Et c'est pas du tout évident de changer son fusil d'épaule. Quand les laboratoires pharmaceutiques français ont essayé de se lancer, par exemple, dans l'invention de molécules contre le sida, il y avait très très peu d'expérience dans les équipes françaises de recherche sur ce type de maladie-là. Et du coup, c'était quasiment impossible de créer comme ça, de but en blanc, les équipes de recherche. Et ça, c'est très important de réfléchir à ça, parce qu'il faut bien se dire, à chaque fois qu'on détruit une équipe de recherche, on ne la reconstituera pas. C'est pour ça que, par exemple, je pense à ce qui est en train de se passer en ce moment au sein d'Aventis, qui est le plus gros laboratoire pharmaceutique aujourd'hui en France, où on est en train de fermer le centre des maladies infectieuses, qui est dans la région parisienne. Eh bien, faut savoir qu'on est en train de détruire une équipe de recherche, là, c'est-à-dire qu'on disperse les gens, on en licencie une partie, on en met une partie à la retraite, on en disperse une autre partie sur d'autres centres de recherche. Mais le savoir-faire qui avait été accumulé là, sur comment combattre les maladies infectieuses, qui était une spécificité, qui était la seule équipe relevant du privé en France, qui avait cette expérience-là, on ne pourra jamais la reconstituer. C'est-à-dire que si demain, un laboratoire pharmaceutique français essaie de se dire, tiens, on va se lancer dans les maladies infectieuses, bon, ça sera que c'est pas possible. Il faut 10 ans pour recréer une équipe, recréer des habitudes de travail ensemble, retrouver les expériences.
Mais comment on décide de ce qu'on va rechercher, par exemple?
Eh ben là, justement, le problème, c'est qui décide de fermer le centre de recherche d'Aventis sur les maladies infectieuses dans la région parisienne? Qui décide de ça? C'est des financiers. Et là, si vous voulez, c'est vrai que, pareil, quand vous avez des laboratoires qui fusionnent, à nouveau d'actualité. Quand vous
avez votre ex-employeur, par exemple.
Par exemple, oui.
Sanofi Saint-Elabo,
qui a proposé de racheter Aventis. Donc, quand une fusion de ce type a lieu, on le sait, les équipes de recherche sont paralysées pendant des mois, éventuellement des années, et ils vont passer leur temps à essayer de convaincre les équipes de la direction que leur projet de recherche est le meilleur. Mais tous ces projets de recherche sont en concurrence au sein de ces laboratoires qui fusionnent. Il va falloir faire des choix. Qui fait les choix? Fondamentalement, c'est des financiers qui font les choix. C'est-à-dire qu'ils vont mettre, ils vont décider les projets qui sont les plus rentables. Or, les projets les plus rentables, ben, vous le savez, c'est pas les projets qui soignent les maladies des gens du tiers-monde, parce que ça n'intéresse personne, mais c'est des projets qui peuvent avoir, répondre à des grosses opérations de marketing en Europe, aux États-Unis et au Japon. Et bien souvent, c'est pas des investissements dans des maladies qui sont importantes, que collectivement nous pourrions considérer comme des pathologies importantes, mais ça sera souvent des choses qui sont relatives au bien-être, qui sont relatives à des maladies tout à fait, ou à ce qu'on a transformé en maladies qui n'étaient pas des maladies autrefois. Mais du coup, on va s'intéresser à des domaines, bon, ben, comme on le sait, avec des nouveaux médicaments qui sortent, qui font des chiffres d'affaires formidables, ça peut être le Viagra, ça peut être des choses de genre.
Voilà, les troubles de l'érection, mais ça peut être voilà. aussi l'obésité ou le surpoids.
Oui. Qui sont des choses importantes. C'est-à-dire, c'est pas des choses négatives, si vous voulez. Mais si collectivement, on discutait quels sont nos choix, quelles sont nos priorités, dans quel domaine on a besoin de médicaments, c'est peut-être pas ce qu'on mettrait en numéro un. Donc, on ferait peut-être pas le même classement collectivement que le classement qui est fait par des financiers. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a que les financiers qui discutent entre eux. C'est eux qui décident de la priorité, c'est eux qui décident des projets de recherche qu'il faut faciliter et ceux qu'il faut abandonner, c'est eux qui décident quelles équipes de recherche on soutient, quelles équipes de recherche on détruit. Je trouve que c'est pas normal que ce soit eux uniquement, alors que c'est notre argent, celui de la sécurité sociale, qui les finance. Je trouve que c'est pas normal qu'ils soient les seuls à décider de cet avenir en matière de médicaments. Parfois ils font des choix qui sont bons, mais on aimerait bien quand même pouvoir se mêler de ces choix-là aussi.
Allez hop.
Petite pique.
Allez hop, la petite pique. Et oui, ça c'est le mot du médecin. Là, on est sur le terrain. On n'est plus dans la, on n'est pas dans la théorie. On n'est pas dans le. Voilà, là, on est. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Parce qu'évidemment, si on veut s'en mêler, hein, si on veut s'en mêler pour dissiper cette opacité, ces dialogues auxquels nous n'assistons pas entre l'industrie pharmaceutique et le gouvernement, voilà, quels sont nos moyens? Ben, l'un des moyens, l'un de nos intermédiaires, c'est évidemment le médecin. Alors comment l'industrie pharmaceutique manipule, disons, le médecin, ou comment elle exerce son pouvoir sur le médecin? Philippe Pignard.
Alors, une des causes d'effets pervers, c'est que ces médicaments-là, qui sont produits par l'industrie pharmaceutique dont on parlait, il y en a des nouveaux qui arrivent tous les jours, et il faut se tenir à niveau quand on est un médecin, quand il faut se former. Alors, il y a des initiatives, récemment, vous parliez des initiatives des médecins des hôpitaux, mais il y a aussi des médecins de ville, des médecins généralistes, qui lancent des appels pour une formation indépendante, puisque qui est-ce qui forme les médecins qui ont déjà leur cabinet? C'est les laboratoires pharmaceutiques, c'est ceux qui les produisent, qui montre comment en prescrire l'usage. Est-ce qu'il n'y a pas un cercle vicieux là aussi?
C'est-à-dire que le médecin seul, face à cette machinerie gigantesque, est incapable de résister. Ça, c'est vrai que les médecins français ont été particulièrement mal armés pour résister à la pression de l'industrie pharmaceutique française. Beaucoup moins, encore une fois, que leurs collègues hollandais ou des pays du Nord, ou même anglais, qui ont beaucoup mieux su résister collectivement, parce qu'ils ont gardé, en Angleterre, par exemple, des revues indépendantes, qu'on a beaucoup moins en France, on a beaucoup moins de revues indépendantes, on n'en a qu'une seule. En Angleterre, il y a des revues qui ont de la publicité, mais qui restent indépendantes. Globalement, même si elles ont des problèmes qui discutent en permanence. Et donc, le corps médical français a sans doute moins su résister. Et les médecins français, je pense, ont besoin d'aide de ce point de vue-là. Il faut aider les médecins français à résister à la pression de l'industrie pharmaceutique.
Comment ça se passe concrètement, cette pression? Déjà.
Mais, si vous voulez, c'est tout, ne serait-ce que c'est la pression de la visite médicale. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des visiteurs médicaux qui viennent présenter les médicaments et qui les présentent forcément sous leur aspect le plus positif et qui sont formés, surformés à répondre à toutes les questions du médecin pour détourner son attention des éventuelles difficultés que ce médicament présente, de ses éventuels effets secondaires, de ses limites éventuelles. Ils sont formés techniquement, de manière extraordinairement sophistiquée et précise, à toutes les techniques pour ne pas répondre, ou pour répondre à côté, ou pour convaincre le médecin que sa question est une question inutile, à chaque fois que le médecin va poser le problème des limites du médicament ou de ses effets secondaires.
Lui, c'est le commercial qui est là pour vendre ses panacées, quoi. Mais sur l'état des lieux, est-ce qu'on peut dire que les prescriptions de nos médecins sont sous influence, justement, avec cette formation?
Forcément. Qu'est-ce que vous voulez? Elles sont, d'abord, quand ils sont formés à la fac, ils sont formés avec toute une partie pharmacologie, tout à fait importante. Enfin, de ce point de vue, il n'y a pas grand-chose à en dire, encore que.
Voilà, mais c'est surtout, à la rigueur, c'est l'université.
Mais c'est surtout qu'ils sont formés à cette pharmacologie sous le nom de marque des médicaments. C'est-à-dire, on ne dit pas telle molécule est importante pour soigner le mal de dos, n'importe quoi. On vous dit telle marque comme on vous dirait Nike, mais là on vous dit telle marque de médicament est utile pour soigner le mal de dos. Vous apprenez ça à la fac, vous continuez avec les visiteurs médicaux, vous êtes formé éventuellement en allant passer un week-end à la Barbade, un week-end...
Est-ce que c'est vrai ça?
Mais bien sûr c'est vrai, mais bien sûr que c'est vrai, mais... Bien sûr que ça se passe pas aussi grossièrement que ce que je suis en train de vous dire. On vous dit pas, attendez, voilà, moi je produis tel produit, je vous invite à passer 2 jours à Venise avec votre femme, votre ami, tout ce que vous voulez. Non, on vous dit jamais ça comme ça. On vous dit, il y a un congrès sur le mal de dos, qui est organisé comme par hasard avec l'entreprise qui produit le médicament contre le mal de dos. Donc voilà. Après, le système se fonde comme ça. Mais enfin, il y a le service public. Il y a l'Agence française de sécurité sanitaire et médicaments qui s'occupe de ça, qui devrait avoir les moyens. Quand bien même ils voudraient... Ils sont 10, enfin je sais pas combien ils sont, mais ils sont très peu nombreux face à une armée de commerciaux qui sont formés au langage que vient de dire Philippe Pignard. Donc évidemment, qu'est-ce que vous voulez qu'ils puissent faire? Or, je pense que là, c'est une mission de service public. Pour éviter une consommation abusive de médicaments, prévenir les médecins en disant « attention, il y a tel et tel aspect », et d'autre part, pour montrer l'ensemble des molécules qui existent, et non pas les marques qui existent. Et moi, ça, je crois que c'est un problème de service public. Vraiment. Avec les mutuelles, avec les associations de malades. On en revient encore à un système démocratique. Je ne crois pas du tout, moi, à un système qui sera purement technocratique.
La migraine, on se résigne à vivre avec, jour après jour.
Aujourd'hui, le bandeau Stop Migraine combat la douleur efficacement. Grâce à l'action de la molécule FC2 qui diffuse un froid constant, Stop Migraine vous soulage en quelques minutes.
Stop Migraine, et si vous commenciez une nouvelle vie?
Mais là, en l'occurrence, c'est un système pour la formation des médecins sur les nouveaux médicaments qui est entièrement aux mains du marché.
Absolument. Aux mains de la pharmacie.
Ce qui est très étrange, d'ailleurs, c'est que finalement, vous employez le mot d'influence, quoique le mot est juste, parce que les médecins pensent intimement qu'ils sont indépendants et que ça les influence pas. Et ça, il y a une étude intéressante qui a été faite aux États-Unis. On a pris 2 écoles de médecine, enfin, c'est des universités, ce qu'on appellerait des universités pour former des médecins aux États-Unis. Une où les visiteurs médicaux peuvent venir, et une autre où il se trouve que les visiteurs médicaux sont interdits, parce que depuis, traditionnellement, on interdit aux visiteurs médicaux d'aller rencontrer les étudiants de cette école. Et donc, on a regardé les étudiants de dernière année qui prescrivent déjà des médicaments, qui sont déjà stagiaires et qui prescrivent des médicaments. L'étude a regardé ce qu'ils prescrivaient et pour voir si là où les visiteurs médicaux venaient...
C'est-à-dire là où les laboratoires pharmaceutiques
venaient, pouvaient former, est-ce qu'il y avait une influence. Et on leur posait une double question en plus, on leur demandait, est-ce que vous pensez que vos prescriptions sont influencées par la visite des visiteurs médicaux? Les résultats sont tout à fait stupéfiants, à savoir que, effectivement, dans l'école où les représentants pharmaceutiques peuvent venir, les prescriptions sont complètement différentes et sont complètement liées aux visites qu'il y a eu, complètement liées. Mais les médecins répondent tous en même temps, on n'est pas sous influence. C'est-à-dire qu'ils sont sous influence, mais ils ne le voient pas. Donc c'est une vraie influence, au sens très subtil du mot influence. C'est-à-dire c'est une influence qui se rend invisible elle-même. C'est-à-dire que les médecins restent convaincus qu'ils sont totalement indépendants et que ça les influence pas et qu'ils font quand même comme ils veulent. Et là, c'est tout à fait, effectivement, c'est tout à l'heure. Maintenant, sur la consommation, mais en France par rapport aux autres pays, comme si on prend les 10 dernières années, quand même, les chiffres 1990-2001, donc vraiment les 10 dernières années, quand même, la consommation, le coût, hein, la dépense en médicaments par Français a augmenté de 63% en France, alors que dans le même temps, en Allemagne, elle a augmenté de 17%. Donc oui. Là, c'est quand même, ou en Italie, de 28%. On est les recordmen du monde. Alors, c'est vrai que... ça augmente partout. Ça augmente partout, mais ça augmente plus vite en France. Et si vous voulez, en France, quand même, il y a un vrai problème, c'est que c'est le pays où on consommait le plus. Mais les prix n'étaient pas très forts. Maintenant, on est toujours ceux qui consomment le plus, mais les prix deviennent très élevés. Donc, ça fait des dépenses gigantesques. Alors là, je trouve qu'il y a quand même des gens qui commencent à s'en rendre compte, et les mutuelles s'en rendent compte, parce que les mutuelles font partie des complémentaires, mais les mutuelles, elles voient quand même, certaines d'entre elles voient évoluer le système avec un peu d'inquiétude, parce que finalement, elles payent 2 fois aujourd'hui la note. Parce que à chaque fois qu'un médicament passe de la tranche de 65 à 35%, c'est eux qui payent la différence. Donc,
c'est-à-dire quand il est déremboursé.
Quand il est déremboursé partiellement, c'est elles qui payent la différence. Mais comme on dérembourse, vous savez, si vous suivez le discours officiel, on nous dit on va dérembourser partiellement toute une classe de médicaments pour mieux rembourser d'autres.
Donc, c'est-à-dire qu'on va les rembourser cela à des prix 20 ou 30 ou 100 fois plus élevés. Donc, les mutuelles, elles payent la part du déremboursement, elles payent une première fois. Et puis, comme les nouveaux médicaments sont beaucoup plus chers et qu'elles payent aussi la 35%, elles augmentent aussi cette part. Donc, elles payent des deux côtés. C'est la voiture balai du système. Et donc, certaines mutuelles sont très inquiètes parce que comme voiture balai, eh ben, ils ramassent tous les frais et ils voient d'un seul coup qu'ils vont être obligés d'augmenter les cotisations de manière démesurée et ils savent pas comment ils vont faire avec leurs adhérents pour pouvoir faire supporter cette augmentation du coût par leurs adhérents. Et les mutuelles, là, commencent à réfléchir à une question que je trouve intéressante et je trouve que moi, je les pose vraiment, j'encourage vivement à aller dans ce sens. C'est que certaines mutuelles importantes se posent ont l'idée aujourd'hui d'éventuellement créer une équipe de visiteurs médicaux qui serait une équipe de visiteurs médicaux créée par la mutualité, représentant la mutualité et qui irait voir les médecins en attirant l'attention des médecins. Alors, ils pourraient travailler avec prescrire, par exemple, en attirant l'attention des médecins sur, justement, tous les risques que les nouveautés présentent, tous les effets secondaires qu'elles ont, tous les insuffisants que ces nouveaux produits ont, l'absence d'études comparatives, par exemple, ou les mauvais résultats obtenus dans les études comparatives quand il y en a, de manière à donner aux médecins une information complémentaire. Je trouve que ce serait une bonne idée pour faire bourgeonner l'idée du mutualisme. C'est-à-dire que le mutualisme pourrait là jouer un rôle en créant des équipes de représentants. Et eux, évidemment, ils seraient bénéficiaires parce que toute diminution des frais inutiles en matière de consommation de médicaments, évidemment, ça se retrouverait pour eux en faisant le fait qu'ils auraient les additions moins lourdes à payer. Ils ne seraient pas obligés d'augmenter les taux des cotisations comme ils sont obligés de le faire aujourd'hui. Je trouve que ça, c'est une bonne idée parce que c'est une façon d'aider les médecins à mieux résister à la pression de l'industrie pharmaceutique. C'est vraiment une question qu'il faut avoir en tête. Comment on aide les médecins à mieux résister?
Si vous voulez profiter de la vie, ne vous laissez pas distraire.
Eh oui. Ne vous laissez pas distraire si vous voulez profiter de la vie. C'est pas si facile. On adore se laisser distraire. Et puis, il y a des techniques pour nous distraire. Et oui, on est complice quand même de toutes ces opérations de diversion. C'est très intéressant d'ailleurs que des visiteurs médicaux nous appellent pour nous dire comment on fait pour influencer le corps médical comme Philippe Pignat nous le décrit. Comment résister, en somme, à la pression de l'industrie pharmaceutique compte tenu de ce qui nous attend, c'est-à-dire une réforme de l'assurance maladie et surtout cette urgence que nous avons tous de combler ce sacré trou.
Juste pour rajouter un petit détail dans ce qu'on disait sur les médicaments, quand il y a eu le début des génériques, nombre de médecins, quand on discutait avec eux, je veux dire tout à fait normalement, disaient « mais on est incapable de prescrire un générique ». On est incapable de prescrire un générique parce que faut prescrire la molécule et que bien souvent on ne connaît pas la molécule. Et qu'on est dans la situation invraisemblable où nombre de médecins vont chercher dans le Vidal le nom du médicament qu'ils vous prescriraient et puis ils retranscrivent après le nom de la molécule. Enfin, c'est quand même le monde à l'envers. Et ça pose quand même tout le problème qui est une autre question des médecins, qui est le problème de la formation continue des médecins. Parce que on peut être médecin à 30 ans, finir médecin à 60 ans, 70 ans, et n'avoir aucune formation continue universitaire. Je veux dire autre que les labos dont on parle.
Que sur le tas.
Enfin, autre que les labos. Et ça, moi, je crois que c'est une vraie question aujourd'hui, qu'il y ait une formation continue. Alors, bien sûr, il y a une convention avec la Sécurité sociale en contrepartie d'augmentation de tarifs. C'était l'idée qu'il fallait se former. Et on s'aperçoit quand on regarde les chiffres que ça reste à la marge pour être très gentil.
Philippe Pignard, vous voulez assister là-dessus?
Il y a un autre aspect dans la prévention qui concerne directement les médicaments, c'est que il faudrait consommer moins de médicaments parce que les médicaments provoquent un effet, leur surconsommation, et c'est de la prévention aussi pour moi, c'est qu'ils multiplient les pathologies. D'une part, il y a 130 000 hospitalisations par an, 130 000 qui sont dues aux médicaments. Si je parlais comme Monsieur Douste-Blazy, je dirais que ça fait 356 hospitalisations par jour, qui sont dus à l'usage en général des médicaments. Il peut y avoir des usages, on a donné correctement un médicament à quelqu'un et qu'il rend malade. Mais plus on consomme des médicaments, et comme nous sommes les premiers consommateurs au monde de médicaments, plus vous augmentez ces chiffres-là.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médicaments sans effet secondaire.
C'est-à-dire que c'est ça. Et de toute façon, sans doute que ce chiffre n'arrivera pas à zéro. Mais on pourrait réduire peut-être, si on diminuait la consommation de médicaments, qui est celle des Français aujourd'hui, on diminuerait évidemment d'autant le nombre d'hospitalisations.
Oui, parce que vous dites 130, je reviens là-dessus, 130 000 hospitalisés à cause
des médicaments.
Des médicaments.
Et vous avez une deuxième chose, c'est que vous avez entre 15 000 et 18 000 morts par an à cause des médicaments. Parfois des médicaments pris à bon escient aussi. Mais si vous contrôlez mieux, si vous enlevez tous ces médicaments inutiles qui sont prescrits, on peut faire baisser ce chiffre. 15 à 18 000 morts par an, quand même, c'est 2-3 fois plus que d'accidents de la route. Ça devrait être une vraie cause nationale, ça, de faire baisser ce chiffre-là. Parce que c'est facile, il suffit de baisser la consommation des médicaments, souvent donnés de manière inutile, on fera baisser ce chiffre à ce moment-là. C'est-à-dire qu'effectivement, toute cette question-là devrait aussi être mise en discussion. Et finalement, normalement, si on discutait sérieusement de la réforme de la sécurité sociale, c'est aussi une question dont tout le monde discuterait. Nous avons tous intérêt à ce que nos médecins que nous allons voir soient des médecins bien formés, soient des médecins qui ont suivi de la formation permanente de qualité, qui lisent des revues comme prescrire, qu'il soit des revues indépendantes. Moi, je conseille à chaque patient de demander à son médecin s'il est abonné à la revue prescrire. Et moi, je m'excuse, mais j'estime qu'un médecin qui ne lit pas la revue prescrire est un médecin mal informé.
Et c'est pas pour faire de la pub pour prescrire.
Oui, puis, cela dit, le problème, c'est qu'il n'y ait qu'une seule revue parce qu'ils sont indépendants. Et en même temps, on a besoin, là aussi, de pluralité d'informations.
Valium, Tranxène, Nabutal, Yogurt, Acide. Valium, Tranxène, Nabutal, Yogurt, Acide.
C'est que le progrès, ça se discute. C'est-à-dire que quand on nous dit c'est du progrès, eh ben ça mérite de regarder de près et ça mérite d'être discuté. Si quelque chose est un progrès thérapeutique, entre autres en termes de médicaments, eh ben faut regarder comment on peut nous dire que c'est un progrès. Et à ce moment-là, on rentre dans un détail, disons, mais qui est très important. On fabrique une expertise à ce moment-là un peu différente, comme les associations de patients ont montré qu'on pouvait le faire. Parce que les centres de patients, aussi bien la FM sur les myopathies, que ACT UP, se sont mêlés de ça. Le progrès aussi, ce qu'est le progrès doit être mis en discussion et non plus faire confiance à ce que tout tombe du ciel comme ça, comme si le progrès était un droit de la raison. C'est-à-dire qu'on puisse dire, ben non, ce médicament-là, au prix où il est proposé, avec la faiblesse du dossier clinique qu'il y a, le fait qu'il n'y a pas d'études, on n'en veut pas actuellement. Retournez faire des études. Et quand vous aurez fait les études de toxicité, quand vous aurez fait des études comparatives, éventuellement on discutera, si on le prend, on discutera à quel prix. Et que tous les mots qui sont employés pour nous paralyser, comme le mot progrès, comme le mot même brevet, comme le mot charge, etc., sont des mots qui sont
difficiles. Le mot déficit, oui.
C'est ça. Et qu'en décortiquant les choses, on se rend compte qu'à ce moment-là, on a notre mot à dire et qu'on peut apprendre et que la propre expérience collective des gens, elle peut venir modifier les choix qui sont faits.
Absolument. Martine Bellard, oui.
Oui, ce que je voulais dire, c'est la différence entre... Je partage complètement ce qui vient de dire. C'est-à-dire pour la première fois, notamment avec les deux associations de malades contre le sida, qui ont produit de l'expertise, qui se sont préoccupés des malades, ça va de soi, mais aussi des traitements, du coût des traitements, du devenir social, très important, des malades, etc. Donc, ils ont produit l'expertise. Pour la première fois, des médecins ont dû partager leur savoir. C'est-à-dire que les malades étaient acteurs de leur traitement. Et ça, moi, je crois que c'est effectivement une question essentielle sur la question de santé, mais c'est exactement la même chose sur les questions économiques.
Philippe Pignard.
Oui, je suis d'accord avec ce que Martine a décrit. Moi, je crois qu'il faut renoncer à cette idée qu'il y a des experts neutres. Se débarrasser de nos problèmes sur des gens qui vont pouvoir les trancher à notre place. Alors, c'est souvent ça l'expertise.
Et donc, qui on pourra déléguer cette responsabilité?
On pourrait sortir comme ça des questions du politique. Et ça, on l'a vu en économie. C'est-à-dire quand on a décidé l'indépendance de la Banque centrale, l'indépendance, etc. C'est-à-dire qu'on laisse croire aux gens qu'on peut éliminer des questions politiques et du coup, le champ politique tend à se réduire de plus en plus. Et c'est des commissions d'experts comme ça qui raisonneraient au nom de la science, du savoir, du savoir universitaire indépendant, et qu'on aurait pu en discuter politique. Ce serait à eux de trancher. Mais non, il faut réinjecter toutes ces questions dans le champ politique. Les médicaments, l'avenir de l'hôpital ne peut être confié à des experts indépendants. Toutes ces questions, il faut les sortir de l'expertise et les réintégrer dans le champ politique et les rediscuter.
Oui, c'est-à-dire ce que je trouve très bien dans ce que dit Philippe Pignard, c'est que il faut regarder l'ensemble du système de santé pour le réorganiser, et puis il faut remettre des moyens à l'hôpital. Est-ce qu'on va avoir ça, ou est-ce qu'on va continuer à mettre les gens dans un faux choix? Vous avez le choix entre payer plus cher ou ne pas vous soigner. Et en vérité, d'ailleurs, c'est un faux choix parce que, notamment, comme tous les faux choix, c'est ce qu'ils payent plus cher et ils se soignent moins bien.
Joli pharmacien, vend des nouveaux cachets, vos pilules.
Je ne me sens pas bien, je voudrais des pastilles qui stimulent.
Depuis 4 jours, j'ai mal à l'estomac. Mon arrière-grand-père a un peu d'eczéma. Ouais, j'ai attrapé une crampe au cinéma.
Mon oncle Victor est tombé dans le coma. Joli pharmacien, d'où me vient ce bouton ridicule? Joli pharmacien, comprends donc ce que nous voulons. Ce n'est pas dans tes bocaux quel remède à nos maux. Joli pharmacien, tu souris, nous voilà guéris.
Voilà, sourire de Pils et Tabet pour finir. Merci à tous. Merci à Martine Bullard. Vous retrouvez les articles de Martine dans Le Monde Diplomatique ou sur le site du Monde Diplomatique, www.monde-diplomatique.fr. Et puis les bouquins de Philippe Pignard, Le Grand Secret de l'Industrie Pharmaceutique et l'autre Pour Sauver Vraiment la Sécu. C'est aux éditions de La Découverte. C'était un reportage de Guy Anquetil. Technique aujourd'hui, Patrick Henry, Christophe Goudin. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. On a eu aujourd'hui un long message d'un assureur qui est là, c'est resté anonyme. S'il voulait nous laisser son téléphone, on aimerait bien le rappeler parce que ce qu'il nous a dit est très intéressant. Christophe Imbert, c'est celui qui vous écoute sur la table d'écoute de ce répondeur. Yann Chouquet s'est occupé des musiques et il assiste. Koy Nguyen qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Il me reste quelques instants et je vais en profiter pour faire une petite mise au point, amis auditeurs, au sujet de Cesare Battisti. Eh oui, on reçoit des messages sur le répondeur ou bien sur le mail de là-bas, si j'y suis. Je rappelle d'ailleurs ce mail au passage, daniel.mermet@radiofrance.com. Et vos messages nous disent, ah ouais, Cesare Battisti, c'est un terroriste, vous avez soutenu un terroriste. Ou bien, d'autres messages qui disent, vous vous dégonflez, vous ne parlez plus de Cesare Battisti. Alors, petite mise au point, nous avons en effet diffusé un entretien avec Cesare Battisti. On s'est intéressé à son arrestation, à sa sortie de la santé, etc., etc. Mais il faut dire que pour nous, l'affaire Cesare Battisti, c'est d'abord tout simplement une affaire de droit. De droit. Cesare Battisti a été déclaré non extradable par un arrêt de la Cour d'appel en 1991 et pour l'instant, aucun élément ne permet de revenir sur ce jugement. C'est un point capital et même pour faire plaisir à notre ami Berlusconi, eh bien, le gouvernement français ne peut aller contre la chose jugée. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est l'asile. Si nous pouvons avoir quelque fierté, parfois, d'être français, eh bien, il y a bien sûr le droit d'asile. Or, en 1985, à l'occasion du congrès de la Ligue des droits de l'homme, le président François Mitterrand déclare que la centaine d'activistes italiens venus en France sont à l'abri de toute sanction par voie d'extradition dans la mesure où ils ont rompu avec leur passé, qu'ils se sont insérés dans la société française, qu'ils ont fondé une famille, qu'ils ont trouvé un métier, etc., etc. Toute chose que Cesare Battisti a faite. Il vit en France depuis 14 ans, il a 2 enfants, il est gardien d'immeuble et comme vous le savez, il écrit des polars et disons qu'il s'est rangé les voitures, il nous l'avait dit, s'est rangé les voitures depuis un petit quart de siècle. Alors cette parole donnée par la République qu'on appelle la jurisprudence Mitterrand a été respectée depuis par le président Chirac et au total par 9 gouvernements successifs. Vous le savez, on l'a dit et vous le savez, puisque la presse en a beaucoup parlé et continue de nous parler, l'affaire Battisti renvoie aux années 70 en Italie qu'on appelle les années de plomb. Il y a aujourd'hui une polémique de chaque côté des Alpes sur la validité de la condamnation de Battisti pour des faits donc liés aux luttes des années 70. Il a été condamné par contumace par des tribunaux spéciaux avec des lacunes de procédure qui avaient été dénoncées notamment par Amnesty International et il a été condamné pour 4 assassinats commis en 78-79, ce qu'il a toujours nié, sur la base de déclarations de repenti, c'est-à-dire des accusés qui négocient leur sort en échange de dénonciation. Mais avant tout, je le dis et je le répète, c'est une affaire d'abord de droit. Pour tout savoir sur cette histoire de Cesare Battisti, il y a un site que vous pouvez très facilement trouver sur Internet. Voilà, je pensais que c'était important de vous donner ces précisions. C'est le moment attendu de la pub, cela dit.